Chapitre 23. Au moment où sa fièvre fut la plus forte, Mike rêva qu'il parlait à Dwayne McBride. Dwayne n'avait pas l'air mort, il n'était pas déchiqueté en lambeaux comme on le disait dans le bourg, il ne titubait pas tel un zombie. C'était juste le Dwayne que Mike avait toujours connu, un garçon un peu balourd avec des gestes lents, en pantalon de velours et en chemise à carreaux. Même dans ce rêve, il remontait de temps en temps ses lunettes sur son nez. Il se trouvait en un lieu inconnu de Mike, même si le paysage lui paraissait familier. Un pâturage sur une colline avec de hautes herbes. Mike ne savait pas trop ce qu'il faisait là, mais, dès qu'il aperçut Dwayne, il le rejoignit sur un rocher au sommet d'une falaise. Son copain écrivait dans un carnet à spirale. Il leva les yeux quand Mike s'assit à côté de lui.
« Je suis désolé que tu sois malade »,
commença Dwayne en remontant ses lunettes sur son nez. Il posa son carnet. Mike hocha la tête, il n'était pas très sûr de ce qu'il voulait dire. Il le dit néanmoins.
« Je suis désolé que tu te sois fait tuer. »
Dwayne haussa les épaules. Mike se mordit les lèvres, mais il ne put s'empêcher de demander.
« Ça fait mal ? De se faire tuer, je veux dire. »
Dwayne mangeait une pomme. Il avala sa bouchée avant de répondre.
« Bien sûr que ça fait mal. Je suis désolé. »
balbutia Mike, incapable de trouver autre chose.
« Tu as un gros problème avec ce soldat. »
dit Dwayne en offrant sa pomme à son copain pour qu'il y morde à son tour.
« Ouais. Les autres aussi ont des problèmes, tu sais. Ah bon? Quels autres ?»
Quelque part au-dessus d'eux, un engin mi-avion mi-oiseau obscurcit la lumière du soleil.
« Tu sais bien. Les autres ?»
C'était clair. Il parlait de Dale, d'Arlène, peut-être aussi de Kevin.
« Si vous essayez chacun de lutter tout seul dans votre coin, vous finirez comme moi. »
avertit Dwayne en remontant à nouveau ses lunettes et en inspectant le paysage.
« Qu'est-ce qu'on peut faire ? Découvrez qui sont ces types ? À commencer par le soldat ? »
Mike se leva et marcha au bord de la falaise. Il ne voyait plus le sommet de la colline, maintenant caché par le brouillard ou les nuages.
« Ouais, mais comment s'y prendre ? »
Dwayne soupira.
« Eh bien, à qui en veut cette chose ?»
Mike ne trouva pas étrange qu'il qualifie le soldat de « chose ». C'était exactement le terme qui convenait.
« À mes mots ? Eh bien, demande à mes mots. D'accord, mais comment arriver à comprendre tout le reste ? Je veux dire, on n'est pas aussi intelligent que toi, tu sais. »
Dwayne n'avait pas bougé, mais il se trouvait plus loin maintenant. Et puis, il n'était plus au sommet d'une mais dans une ville. Il faisait sombre, plutôt froid, l'hiver approchait. En fait, Dwayne devait être assis sur un banc, pas sur un rocher. Il paraissait attendre l'autobus et fronçait les sourcils, l'air irrité.
« Tu peux toujours me demander, » lança-t-il.
Voyant que Mike ne comprenait pas, il ajouta.
« En plus, tu es intelligent. »
Mike se mit à protester. Il ne comprenait pas la moitié de ce qu'il lui racontait. Il lisait au maximum un livre par an. Mais Dwayne montait dans l'autobus. Sauf que ce n'était pas un autobus, plutôt une énorme machine agricole avec des fenêtres et une petite timonerie en haut, comme sur les images de bateaux naviguant sur le Mississippi. Mais la roue à aube paraissait constituée non pas de pales, mais de lames. Dwayne se pencha à la fenêtre.
« Tu es intelligent !» cria-t-il. « Plus intelligent que tu ne le crois !»« En plus, tu as un énorme avantage !»« Lequel ?»
Mike courait pour ne pas se laisser distancer par l'engin.
« Tu es vivant !»
D'un seul coup, la rue fut vide. Mike se réveilla. Il avait chaud et mal partout. Son pyjama et ses draps étaient trempés de sueur. Il avait l'impression que c'était le début de l'après-midi. La moustiquaire laissait passer un rayon de soleil et une faible brise. Il devait faire environ 40 degrés dans sa chambre, même avec le ventilateur du couloir. Il entendait sa mère ou une de ses sœurs passer l'aspirateur en bas. Il mourait de soif, mais il se sentait trop faible pour bouger et il savait qu'il aurait beau appeler, personne ne l'entendrait avec le bruit de l'aspirateur. Il regarda dehors l'herbe de la pelouse.
« Demande à mes mots. »
C'est exactement ce qu'il ferait dès qu'il se sentirait assez solide pour enfiler un jean et descendre l'escalier. Toute la journée du lendemain dimanche, la mère d'Arlène fit la tête à son fils comme si c'était lui qui lui avait fait des reproches et non Barney et le docteur Staffney. Il régnait dans la maison une atmosphère tendue, comme du temps où ses parents se disputaient. Une heure ou deux de scène, puis trois semaines de silence glacial. Arlène s'en moquait. Si cela devait faire rester sa mère à la maison, et surtout si sa présence empêchait le visage d'apparaître à la fenêtre, il était prêt à demander à Barney de venir la sermonner tous les deux jours.
« Ce n'est quand même pas comme si je t'abandonnais !»
lança-t-elle alors qu'il se faisait chauffer de la soupe pour son déjeuner. C'étaient les premiers mots qu'elle lui adressait depuis le début de la journée.
« Dieu sait que je passe assez de temps à me tuer au travail pour toi et pour entretenir la maison !»
Arlène jeta un coup d'œil au salon. Les seules surfaces libres étaient celles que lui ou les deux hommes avaient dégagées la veille au soir. Barney avait lavé la vaisselle et cela faisait un drôle d'effet de voir la paillasse vide dans la cuisine.
« Et ne me parle pas sur ce ton, je te prie !»
continua-t-elle. Arlène la regarda. Il n'avait pas ouvert la bouche.
« Tu sais très bien ce que je veux dire. C'est deux types qui se mêlent de me faire la morale sur la façon dont je m'occupe de mon propre enfant. Ils ont même parlé d'abandon. »
Sa voix tremblait. Elle se tut pour allumer une cigarette. Sa main aussi tremblait. Elle éteignit l'allumette, exhala la fumée et tapota la paillasse de ses ongles vernis. Arlène regarda la marque de rouge à lèvres à l'extrémité de la cigarette. C'est cela qu'il haïssait le plus, ce rouge sur les mégots partout dans la maison. Ça le rendait fou, mais il ne comprenait pas pourquoi.
« Après tout, continua-t-elle d'une voix plus ferme, tu as quand même 11 ans maintenant. Tu es déjà presque un jeune homme. Moi, à ton âge, je m'occupais des trois petits derniers et je travaillais à mi-temps dans un restaurant de Princeville. »
Arlène acquiesça. Il connaissait la chanson.
« Quelle toupée ils ont, ces imbéciles !» reprit-elle.
Arlène versa sa soupe dans une assiette et chercha une cuillère en attendant qu'elle refroidisse.
« Mais maman, ils ne sont restés qu'à cause de cette folle dans la maison. Ils avaient peur qu'elle revienne. »
Elle refusa de se tourner, s'obstinant à lui présenter un dos raide. Ça aussi, il connaissait. Il goûta sa soupe, encore trop chaude.
« Voyons, maman, il ne faut pas le prendre comme ça. Il voulait seulement dire que tu ne vas quand même pas m'expliquer ce qu'il voulait dire. Je sais reconnaître une insulte quand j'en entends une. Mais ce qu'il refuse de comprendre, c'est que tu as sûrement juste eu l'illusion de voir quelqu'un à ta fenêtre. Ils ne veulent pas admettre qu'à l'hôpital, le docteur Armitage a dit que tu avais reçu un très sévère coup sur la tête, un traumatisme crânien, un choc très sérieux. Le docteur Armitage m'a prévenu que tu pouvais être pendant quelque temps sujet à des hallucinations. Je veux dire, ce n'est pas comme si tu avais aperçu quelqu'un que tu connaissais, non? Quelqu'un qui existe vraiment.
Eh ben... » Sa mère hocha la tête comme si elle avait obtenu gain de cause.
« Je voudrais bien savoir où ils étaient, ces deux messieurs, pendant que je restais 24 heures sur 24 près de toi à l'hôpital. »
Arlène se concentra sur sa soupe. Puis il alla jusqu'au réfrigérateur, mais l'unique carton de lait qu'il y trouva traînait là depuis très très longtemps et il n'eut aucun désir de le prendre. Il se servit un verre d'eau au robinet.
« Tu as raison, maman, mais j'étais quand même bien content de te voir rentrer. Tu ne devais pas aller chez le coiffeur aujourd'hui ? Si j'y allais, tu rappellerais aussitôt ce flic et il me coffrerait pour abandon d'enfant »
rétorqua-t-elle d'une voix lourde de sarcasme.
« Allons, maman, il fait pas nuit. Je n'ai pas peur en plein jour. Elle ne reviendra pas dans la journée. »
De ces trois affirmations, seule la première était vraie. La deuxième était un mensonge éhonté. Quant à la troisième, un vœu pieux. Sa mère se passa la main sur les cheveux et éteignit sa cigarette dans l'évier.
« Très bien. Je serai de retour dans une heure, peut-être un peu plus. Tu as le numéro de téléphone du coiffeur, hein ?
Ouais. »
Il rinça son assiette à soupe et l'ajouta à la vaisselle sale du petit déjeuner. La voiture de sa mère descendit Depot Street. Arlène compta 2 minutes, elle oubliait souvent quelque chose et revenait le chercher. Puis, une fois certain qu'elle était bel et bien partie, il monta le cœur battant dans la chambre de sa mère. Ce matin-là, alors qu'elle dormait encore, il avait rincé drap et tête d'oreiller dans la baignoire avant de les fourrer dans la machine à laver. Quant au pyjama, il l'avait jeté dans la poubelle à côté du garage. Il n'était pas question qu'il le remette jamais pour dormir. Une fois là-haut, il explora systématiquement les tiroirs de sa mère, passant les doigts dans ses sous-vêtements de soie, aussi ému que la première fois qu'il avait acheté un de ses magazines à CJ Kangden et l'avait rapporté à la maison. Le revolver n'était pas dans la commode. Il fouilla la table de nuit, écartant des paquets de cigarettes vides et une boîte à peine entamée de préservatifs. Des bagues, des stylos à billes qui ne marchaient pas, des pochettes d'allumettes de différents restaurants et cabarets, des morceaux de papier ou des serviettes de table avec des noms de mecs, une espèce d'instrument pour se relaxer les muscles du dos, un livre de poche, pas de revolver. Il s'assit sur le lit et inventoria la pièce. Le placard ne contenait que des chaussures, des robes. Ah ! Il grimpa sur une chaise pour atteindre le fond de l'unique étagère, fouilla à tâtons derrière des boîtes à chapeaux et des chandails pliés. Soudain, ses mains sentirent le froid du métal. Il tira une photo encadrée sur laquelle son père souriait, un bras autour des épaules de sa mère, un autre sur la tête d'un bambin de 4 ans dans lequel il se reconnut vaguement. Il la jeta sur le lit et tâtonna sous le dernier vieux chandail. Une crosse bombée, un ponté de métal. Il sortit le revolver à deux mains en prenant bien soin de ne pas poser le doigt sur la gâchette. Il était surpris de son poids par rapport à sa taille. Les parties métalliques de l'arme étaient en acier bleu, le canon très court, pas plus de 5 cm, et la crosse d'un joli bois à nœuds gravé de croisillons. Cela ressemblait beaucoup à un pistolet d'enfant, une imitation de calibre 38 avec laquelle il avait joué lorsqu'il était petit. Mais celui-ci, c'était un vrai calibre 38. Il sauta de la chaise et découvrit rapidement le moyen de regarder dans le chargeur. Il n'avait vraiment pas envie d'appliquer son œil contre le canon. Le trou était vide. Il lui fallut encore quelques instants avant de réussir à faire tourner le barillet. Tous les trous étaient vides. Le garçon jura, fourrant le revolver dans sa ceinture. Il sentit le froid de l'acier contre la chaleur de sa peau. Il fouilla toute l'étagère à la recherche des balles. Rien. Elle avait dû les jeter. Il rangea tant bien que mal toutes les affaires, remit la chaise à sa place, ressortit le revolver et resta là à le regarder. À quoi bon avoir ce truc s'il ne trouvait pas les balles? Il jeta à nouveau un coup d'œil sous le lit, chercha dans toute la chambre, même dans le coffre à couverture en bois de cèdre, en vain. Il était pourtant certain d'avoir déjà vu une boîte de balles dans la maison. Il vérifia une dernière fois que son passage n'avait pas laissé de traces, pas évident vu le désordre, puis redescendit.
Où est-ce que je pourrais bien acheter des munitions? Est-ce qu'on en vend aux enfants? Je me vois mal entrer chez Meyers ou Jensen pour demander des balles de calibre 38.
Il ne se rappelait pas en avoir vu au supermarché et M. Meyers ne l'aimait pas. L'été dernier, il avait presque refusé de lui vendre des clous pour sa cabane. Alors des balles? Arlène eut une dernière idée. Sa mère rangeait toute une collection de boissons alcoolisées dans un placard, mais elle gardait toujours une bouteille de réserve sur la dernière tablette du placard de la cuisine, au cas sans doute où on dévaliserait son stock. Là-haut, il y avait d'autres bouteilles et divers trucs. Il grimpa sur la paillasse, tenant de sa main bandée le revolver à canon court. Il trouva 2 bouteilles de vodka, un bocal plein de riz, un autre rempli de pois bizarres, et un troisième au couvercle collé avec du ruban adhésif et à l'éclat vaguement métallique. Il le sortit à la lumière. Les balles étaient en vrac au fond du bocal. Il en compta au moins 30. Il prit un couteau, coupa le papier collant et versa les balles sur la paillasse. Il était encore plus ému que le jour où il avait rapporté ses magazines porno. Au bout de quelques instants, il comprit comment remplir les alvéoles, puis il fit tourner le barillet pour vérifier que l'arme était complètement chargée. Ensuite, il fourra les autres balles dans ses poches, remit le bocal à sa place, sortit par la porte de derrière et escalada la clôture en direction du verger, à la recherche d'un endroit où s'entraîner et d'une cible. Mémo ne dormait pas. Ses yeux étaient ouverts par moments, mais elle n'était pas vraiment présente. Mike était accroupi à son chevet. Sa mère était à la maison et on était le 10 juillet, le 3e dimanche en 3 ans où Mike ne servait pas la messe. L'aspirateur fonctionnait au-dessus. Le garçon se pencha vers le lit, sentant que la vieille dame le suivait du regard. Une de ses mains s'accrochait au couvre-lit. On aurait dit des serres avec des doigts noueux et des veines saillantes.
« Tu m'entends, Mémo ? »
murmura-t-il. Il se redressa, observa ses yeux. Elle scia une fois. « Oui. »«
Mémo, »
chuchota-t-il les lèvres sèches après ses jours de fièvre.
Tu as vu le soldat à la fenêtre ?
Un clignement.
Tu l'avais déjà vu avant ?
Un clignement.
Il te fait peur ?
Un clignement.
Tu penses qu'il vient nous faire du mal ?
Un clignement.
Tu crois que c'est la mort ?
Elle cligna trois fois des yeux, ce qui, dans leur code, voulait dire « je ne sais pas » ou « je ne comprends pas ». Mike prit sa respiration.
Ses rêves, pendant qu'il avait la fièvre, tu l'as reconnu ?
Un clignement.
C'est quelqu'un que tu connais ?
Un clignement.
C'est quelqu'un que papa et maman connaissent ?
Deux clignements.
Non. C'est quelqu'un que je connais ?
Deux clignements.
Mais toi, tu le connais.
Memo garda un instant les yeux clos. Parce qu'elle souffrait ou parce que ses questions l'exaspéraient ? Il se sentait complètement ridicule, mais il ne savait pas comment se renseigner autrement. Puis elle ouvrit les yeux et les referma aussitôt.
Un clignement.
Oui, elle le connaissait.
C'est quelqu'un qui est vivant ?
Deux clignements. Cette réponse ne le surprit pas.
Quelqu'un qui est mort, alors ?
Oui.
Mais une vraie personne, je veux dire quelqu'un qui était en vie autrefois.
Oui.
Tu penses que c'est un fantôme, Memo ?
Elle scia trois fois, puis s'arrêta avant de scier encore une fois.
C'est quelqu'un que toi et grand-père vous connaissiez ?
Une pause, puis oui.
Un ami ?
Pas de réponse. Ses yeux brûlants fixaient Mike, le suppliant de reformuler sa question.
Un ami de grand-père ?
Non.
Un ennemi de grand-père ?
Elle hésita, scia une fois. La salive lui coulait de la bouche et du menton. Mike l'essuya avec la serviette posée sur la table de nuit.
Alors, c'était un ennemi de grand-père et de toi ?
Non. Mike était certain qu'elle avait scié deux fois, mais il ne comprenait pas la réponse puisqu'elle venait de dire que c'était un ennemi de grand-père. L'aspirateur ne vrombissait plus là-haut, mais il entendait sa mère fredonner en époustant la chambre des filles.
Un ennemi de grand-père, mais pas ton ennemi.
Oui.
Le soldat était ton ami.
Oui. Très bien. Et maintenant, comment savoir qui avait été cette personne et pourquoi elle s'en prenait à présent à Memo ?
Tu sais pourquoi il est revenu, Memo ?
Non.
Mais tu as peur de lui.
Question stupide, il connaissait la réponse.
Oui.
Pause.
Oui.
Pause.
Oui. Quand il était vivant, il te faisait peur ?
Oui.
Est-ce que je pourrais découvrir qui il est ?
Oui.
Oui.
Mike se leva et commença à arpenter la pièce. Une automobile passa dans First Avenue. L'odeur de l'herbe fraîchement tondue entrait par la fenêtre. Il remarqua avec un pincement de culpabilité que pendant qu'il était malade, son père avait tondu la pelouse à sa place. Il revint s'accroupir à côté de Memo.
Memo, est-ce que je peux regarder dans tes affaires ? Cela t'ennuierait si je regardais dans tes affaires ?
Elle ne pouvait pas répondre à une question formulée de deux manières contradictoires. Elle le regardait, attendant qu'il la repose.
« J'ai ta permission ?»«
Oui. » Le coffre de Memo se trouvait dans un coin de la pièce et il était strictement interdit à tous les enfants d'y toucher. Il contenait ses objets les plus personnels et les plus précieux que sa fille conservait comme si la vieille dame devait encore s'en servir un jour. Il fouilla sous les vêtements jusqu'à ce qu'il tombe sur une liasse de lettres, pour la plupart de son époux.
« Là-dedans, Memo ?»
Non. Il trouva une boîte de photographies sépia et les lui montra.
Oui.
Il les feuilleta rapidement. Sa mère était en train de faire le ménage dans la chambre des filles, ensuite elle irait dans la sienne. Il était censé se reposer en bas pendant qu'elle aérait la pièce et changeait les draps. La boîte contenait bien une centaine de photographies. Portraits ovales des membres de la famille ou de personnes inconnues. Photographies de leur grand-père quand il était jeune, grand et fort, devant sa moto, en compagnie de deux autres messieurs devant le bureau de tabac d'Oak Hill dont ils avaient été les propriétaires éphémères et malchanceux, avec Memo à l'exposition universelle, photos de la famille, clichés de pique-nique, de vacances, de moments paisibles sous la véranda, portraits d'un bébé en robe blanche apparemment endormi sur un oreiller de soie, Mike comprit, horrifié, que c'était le frère jumeau de son père mort à quelques semaines. La photo avait été prise après sa mort. Quelle affreuse coutume! Il feuilleta plus vite. Mémo, déjà plus âgé, grand-père lançant des anneaux à la foire, la famille du temps où Mike était bébé, avec ses sœurs aînées souriant à l'objectif. Mike sursauta. Il tint la photographie dans son cadre de carton à bout de bras comme si elle était contagieuse, et il laissa tomber toutes les autres dans la boîte. Le soldat le regardait d'un air martial. Le même uniforme kaki, les mêmes bandes molletières, le chapeau de brousse, le ceinturon. C'était lui. Mais là, la figure n'était pas une ébauche tracée sur de la cire. C'était un visage humain, avec de petits yeux braqués sur l'objectif, un sourire contraint, des lèvres pincées, des cheveux brillantinés peignés en arrière au-dessus des oreilles, un menton rond, un gros nez. Mike retourna la photo et lut ces mots tracés de la main de sa grand-mère, d'une belle écriture ronde. William Campbell Phillips, 9 novembre 1917. Il brandit la photo.
Oui. C'est lui alors? C'est vraiment lui?
Oui.
Y a-t-il autre chose dans le coffre? Mémo? Quelque chose qui m'en apprendrait plus sur lui?
Il n'y croyait pas. Il voulait vite refermer le coffre avant que sa mère arrive.
Oui.
Il leva la boîte de photos.
Non.
Quoi d'autre sinon ce petit cahier relié de cuir? Il le prit, l'ouvrit au hasard. Une date, janvier 1918.
« Ton journal »
souffla-t-il.
« Oui.
Oui. » La vieille dame ferma les yeux et refusa de les ouvrir. Mike rabattit le couvercle du coffre, glissa la photo et le cahier dans sa chemise, s'approcha du lit et se pencha, l'oreille tout près de la bouche de sa grand-mère. Elle avait le souffle court, sec. Il lui caressa doucement les cheveux et alla sur le sofa se reposer. En s'enfonçant dans le verger qui s'étendait derrière sa maison et celle de Kangden, Jim Harlan trouva un arbre semblant offrir une bonne cible. Il recula d'une vingtaine de pas, leva le bras en le tenant droit et ferme et appuya sur la détente. Rien. Ou plutôt si, le chien se souleva un peu et retomba. Il se demanda s'il n'y avait pas un cran de sécurité, mais il ne voyait aucun bouton ou machin sauf celui qui permettait d'avoir accès au barillet. La détente était juste plus dure qu'il ne l'avait cru, sans compter que le fichu plâtre de son bras gauche avait tendance à le déséquilibrer. Il s'accroupit, releva le chien avec le pouce, réajusta sa prise sur la crosse et visa l'arbre en regrettant de n'avoir rien d'autre pour se repérer que ce minuscule bout de métal au bout du canon. Le vacarme faillit lui faire lâcher l'arme. Comme le revolver était plutôt petit, il s'était attendu à une détonation et un recul faible dans le genre de ceux du 22 long rifle avec lequel, une fois de temps en temps, J.P. Kangden condescendait à le laisser tirer. C'était loin d'être le cas. Il avait encore le bang dans les oreilles et les chiens du voisinage se mirent tous à aboyer. Il renifla une odeur qui devait être celle de la poudre, bien qu'elle n'eût guère de rapport avec celle des pétards de la fête nationale. Son poignet était tout endolori. Il alla voir le résultat. Rien. Il n'avait même pas touché l'arbre. Il avait manqué un tronc de 40 cm de diamètre. Cette fois, il ne s'éloigna que de 15 pas, arma soigneusement, visa encore plus attentivement, retint son souffle et tira. Le revolver lui tomba de la main. Les chiens se remirent à aboyer. Il courut à l'arbre, s'attendant à trouver un trou en plein milieu du tronc. Rien. Il inspecta le sol à la recherche d'une marque de balle.
Foutu saloperie!
Il recula de 10 pas, visa, tira et cette fois égratigna l'écorce sur le bord, 1 mètre plus haut que l'endroit visé.
Alors que je ne suis qu'à 3 mètres!
Les chiens hurlaient toujours comme des damnés, une porte claqua derrière les arbres. Jim traversa la ligne de chemin de fer et s'éloigna du bourg en passant devant les silos abandonnés. Juste avant l'usine de Suif, un triangle d'arbres et de buissons poussait dans un espace marécageux à côté de la voie ferrée dont le talus pourrait arrêter les balles. Il avait négligé ce détail tout à l'heure. Il eut des sueurs froides en pensant qu'une de ces balles était peut-être allée se perdre dans un pâturage de l'autre côté de Caton Road. Quelle surprise pour les vaches! Bien caché dans les buissons à 500 mètres de la décharge, Harlan rechargea le barillet et disposa en bas du talus des boîtes de conserve et des bouteilles trouvées le long du chemin. Puis il appuya la crosse contre sa cuisse pour relever le chien, et commença à s'exercer. Ce truc aurait raté un éléphant dans un couloir. Oh, il éjectait bien les balles, Arlène en avait mal aux oreilles et aux poignets, mais elle n'atteignait jamais l'endroit visé. Et dire qu'il semblait si facile au héros de ses films favoris de faire mouche à 15 ou 20 mètres. Quoi qu'il en soit, il s'aperçut qu'à moins de 3 mètres, il n'avait aucune chance de toucher la cible et que même à cette distance, il lui fallait 3 ou 4 essais pour y arriver. Si je veux me servir de cette couillonnade contre quelqu'un, il faudra que je lui colle le canon sur la tête ou la poitrine pour ne pas le manquer. Il avait tiré 12 balles et en remettait 6 de plus lorsqu'il entendit un léger bruit derrière lui. Il se retourna en levant le pistolet, mais le truc du barillet n'était pas fermé et toutes les balles, sauf deux, tombèrent dans l'herbe. Cordy Cook sortit du couvert des arbres. Elle portait un fusil à double canon aussi grand qu'elle, mais il était ouvert à la culasse. Arlène avait déjà vu des chasseurs porter leur arme comme ça. Elle le regarda en plissant ses petits yeux porcins. « J'avais oublié à quel point elle est moche !» pensa Arlène. Son visage lui faisait penser à un flan, avec des yeux en raisin sec, un nez en quartier de pomme et un mince filament de zeste d'orange en guise de bouche. Elle portait toujours la même robe, une espèce de sac grisâtre plus sale encore que lorsqu'elle la mettait pour aller à l'école, et de gros souliers marrons avec des soquettes autrefois blanches. Ses petites dents pointues étaient de la même couleur crasseuse que ses chaussettes. « Salut, Cordy !» dit-il en abaissant son revolver et en essayant de prendre l'air décontracté. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle s'avança vers lui. Ses yeux étaient cachés par sa longue frange en dents de scie et il ne voyait même pas s'ils étaient ouverts.
« T'as fait tomber tes balles !»
dit-elle de cette voix monocorde et nasillarde que le garçon avait souvent imitée pour faire rire ses camarades. Il lui fit un sourire gêné et se baissa pour les ramasser, mais il n'en trouva que deux.
« Il y en a une autre à côté de ton pied gauche et une autre en dessous. »
Il les ramassa et, renonçant à recharger, enfonça le revolver dans la ceinture de son jean.
« Fais gaffe, tu vas te tirer dans la petite saucisse. »
Arlène se sentit rougir jusqu'à la racine des cheveux. Il redressa l'écharpe qui soutenait son bras et regarda la fillette en fronçant les sourcils.
« Qu'est-ce que tu fous ici ?»
Elle haussa les épaules et changea son fusil de bras.
« Je me demandais qui tirait par ici. J'ai pensé que CJ Kangden avait un nouveau pétard. »
Arlène se rappela la dernière rencontre de Dale avec CJ Kangden.
« C'est pour ça que tu te balades avec ce bazooka ? »
demanda-t-il de son ton le plus ironique.
« Pas vraiment. J'ai pas peur de CJ Kangden, c'est les autres que je surveille. »«
Quels autres ?»
Elle plissa les yeux.
« Cette ordure de Rune, Van Syke, enfin ceux qui ont pris Toby.
Tu crois qu'ils ont enlevé Toby ?»
La fillette tourna la tête vers le soleil et le talus du chemin de fer.
« Enlevé mon œil, ils l'ont tué, oui.
Tué » « Tué ?»
Arlène sentit une main géante lui serrer le ventre et balbutia.
« Comment tu le sais ?»
Elle haussa les épaules, appuya le fusil contre une souche pour se gratter une croûte au poignet, puis reprit son arme. Ses bras maigres et blancs ressemblaient à des flûtes.
« Je l'ai vu.
Tu as vu le corps de ton frère ?»
souffla Arlène.
« Où ça ?»«
À ma fenêtre.
Un visage à une fenêtre. Non, moi, c'était la vieille, Madame Dugan. »«
Tu rigoles ?» Cordy le regarda. Elle avait des yeux couleur d'eau de vaisselle.
« Non, c'est vrai.
Tu l'as vu à la fenêtre, chez toi ?»
« À quelle autre fenêtre veux-tu que je l'aie vu, Nick Douille ?»
Arlène eut une brusque envie de lui envoyer son poing dans la figure, mais il hésita. Elle avait un fusil.
« Pourquoi vous n'avez pas appelé la police ?»«
Parce qu'il serait arrivé trop tard, il serait parti avant. En plus, on n'a pas le téléphone. »«
Comment ça, il serait parti avant ?»
Il faisait chaud, le soleil cognait dur, son t-shirt lui collait aux épaules et sous son plâtre, son bras le démangeait. Mais il eut un long frisson. Cordy s'approcha tout près de lui et chuchota.
« Parce qu'il bougeait. Il était à une fenêtre et après il a été sous la maison, là où les chiens se couchaient avant. Depuis, ils veulent plus y aller. »«
Mais t'as pas dit qu'il était ?»«
Mort, je sais. Je pensais qu'il l'avait juste enlevé, mais quand je l'ai vu, j'ai bien compris qu'il était mort. »
Elle examina la rangée de bouteilles et de boîtes de conserve, toutes les bouteilles étaient intactes et deux boîtes seulement étaient percées d'un trou. Elle secoua la tête.
Ma mère aussi, elle l'a vu, mais elle croit que c'est un fantôme. Elle pense que ce qu'il veut, c'est revenir chez nous.
Tu crois que c'est vrai ?
Il reconnut à peine sa propre voix, tant elle était rauque.
Non.
La fillette revint vers lui et le regarda dessous sa frange. Arlène sentait son odeur de torchon sale.
C'était pas vraiment Toby, il est mort. C'était juste son corps. Ils s'en servent d'une façon ou d'une autre. C'est après moi qu'il en a à cause de ce que j'ai fait à Rune.
Qu'est-ce que tu lui as fait ?
Le calibre 38 était lourd et froid contre son ventre. Il avait aperçu deux ronds de cuivre dans la culasse du fusil de Cordy. Elle se promenait avec un fusil chargé. Et elle était complètement givrée. Si elle le prenait pour cible, il n'était pas du tout sûr de pouvoir sortir son revolver à temps.
« Je lui ai tiré dessus, »
répondit-elle de cette même voix dénuée d'expression.
« Mais je l'ai pas tué, c'est bien dommage. »«
T'as tiré sur Rune ? Le directeur ?»«
Ouais. »
Elle se pencha soudain vers lui, releva promptement son t-shirt et s'empara d'un geste preste du revolver glissé dans sa ceinture de jean. Arlène, pris par surprise, n'eut pas le temps de l'en empêcher.
« Bon Dieu, où t'as dégoté ce truc ?»
demanda-t-elle en l'approchant de son nez comme pour en renifler le barillet.
« C'est à mon père. »
« Un de mes oncles en avait un comme ça. Ces petits trucs ne valent pas un clou au-delà de 6 ou 7 mètres. »
Sans lâcher son fusil, elle pivota pour braquer le revolver sur la rangée de boîtes de conserve.
« Pan !»
fit-elle. Elle le lui rendit, crosse en avant.
« Je ne rigolais pas, tu sais, quand je t'ai dit de ne pas le mettre dans ton froc. Mon oncle a failli se faire sauter le zizi un jour où il était saoul. Il l'a fourré comme ça, dans son pantalon, et il était encore armé. Mets-le dans ta poche revolver et rabats ton t-shirt par-dessus. »
Arlène obéit. C'était encombrant, mais il pourrait dégainer plus vite.
Pourquoi t'as tiré sur Rune ?
Oh, il y a quelques jours. Juste après le soir où Toby a essayé de m'avoir. Je savais que c'était Rune qui l'avait lâché sur moi.
Je ne te demande pas quand c'était, je te demande pourquoi.
Cordy secoua la tête comme si elle avait l'impression de parler à un débile mental.
Parce qu'il a tué mon frère et qu'il a envoyé son cadavre après moi,
expliqua-t-elle patiemment.
Il se passe de drôles de choses par ici cet été. Maman le sait, pas aussi, mais il n'est pas là assez souvent pour y faire attention.
Et tu l'as pas tué ?
Les arbres autour d'eux paraissaient soudain noirs et sinistres.
« Tu es qui ?
Rune ?
Ben non, »
répondit-elle avec un soupir.
« Il était trop loin. Les plombs ont éraflé l'aile de sa vieille Plymouth et lui ont égratigné le bras. Peut-être qu'il en a reçu aussi un dans le cul, mais je suis pas sûr.
Où ça ?
Dans le bras et dans le cul, »
répéta-t-elle exaspérée.
« Non, je veux dire, où est-ce que t'as tiré sur lui ? En ville ?»
Cordy s'assit sur le talus. Il pouvait voir sa petite culotte entre ses cuisses maigres et pâles. Arlène n'avait jamais imaginé qu'il puisse rester indifférent au spectacle d'une petite culotte de fille, surtout avec la fille dedans. C'était pourtant le cas. La petite culotte était aussi grise que les soquettes.
« Si j'y avais tiré dessus en ville en douille, tu crois pas que je serais au trou ?»
Arlène acquiesça.
Ça s'est passé devant l'usine de suif pendant qu'il sortait de sa bagnole. J'aurais bien voulu tirer de plus près, mais j'aurais plus été caché par les arbres. Il a fait un de ces bonds. C'est pour ça que je crois bien l'avoir touché au cul. Et puis j'ai vu la doublure de sa manche de veston déchiré. Alors il a sauté dans le camion et il est reparti avec 25, mais je suis presque sûr qu'ils m'ont vu.
« Quel camion ? »
demanda-t-il, mais il connaissait la réponse.
« Tu sais bien, »
soupira Cordy.
« Ce foutu camion d'écarissage. »
Elle attrapa Arlène par le poignet et le tira. Il tomba à genoux à côté d'elle sur le talus. Quelque part dans le bois, un pivert commença son toc-toc. Arlène entendit une automobile ou un camion dans Caton Road à 500 mètres vers le sud-est.
« Écoute, »
dit la fillette, toujours accrochée à son poignet.
Il faut pas avoir inventé la poudre pour comprendre que t'as vu quelque chose dans Old Central. C'est pour ça que t'es tombé et que tu t'es amoché. Et puis t'as peut-être vu autre chose.
Arlène hocha énergiquement la tête, mais elle n'en tint aucun compte.
« C'est eux aussi qui ont tué ton copain Dwayne. Je sais pas comment, mais je suis certaine que c'est eux. »
Elle détourna les yeux et son visage prit une drôle d'expression.
« C'est bizarre, j'ai toujours été dans la même classe que lui depuis le jardin d'enfants, mais je crois pas qu'il m'ait jamais dit un seul mot. Pourtant, je l'ai toujours trouvé sympathique. Il était souvent perdu dans ses pensées, mais je lui en voulais pas. Je me disais que peut-être un jour, on irait se promener ensemble. On parlerait et... »
Elle revint sur terre, regarda fixement le poignet d'Arlène, le lâcha.
« Écoute, t'es pas venu ici tirer avec le revolver de ton père parce que tu t'embêtais et que t'avais envie de prendre l'air. Tu crèves de peur. Et je sais pourquoi. »
Arlène aspira une bouffée d'air.
« Bon, »
répondit-il d'une voix rauque.
« Alors, qu'est-ce qu'on fait ?»« On va aller voir tes copains, tous ceux qui ont vu des choses bizarres. On va se mettre tous ensemble et on va attaquer Rune et les autres, les morts et les vivants. Ils sont tous après nous. »
Et puis, il était si près de la fillette qu'il voyait le duvet de sa lèvre supérieure.
« On va tuer les vivants. » Et les morts, on verra bien.
Elle mit brusquement la main sur sa braguette et serra, fort. Il bondit en arrière et envisagea sérieusement de lui tirer dessus pour lui faire lâcher prise. Aucune fille ne lui avait jamais fait ça.
« Tu veux la sortir ?»
demanda-t-elle d'une voix mielleuse de séductrice hollywoodienne.
« Tu veux qu'on se mette tout nu ? Y a personne ?»
Arlène se mordit la lèvre.
« Non, pas maintenant. Plus tard, peut-être. »
Cordy soupira, haussa les épaules, se leva, reprit son fusil et ferma la culasse de son arme.
« Dac. Alors on y va, on trouve tes copains et on démarre. »«
Tout de suite ? » ?»«
On tue les vivants. »
Et Barnac avait l'air si compréhensif hier soir, quelle tête il fera quand il viendra me passer les menottes parce que j'aurais tué le directeur de l'école, le gardien et Dieu sait qui d'autre.
« Bien sûr, tout de suite. À quoi ça sert d'attendre ?
Il va faire nuit bientôt, alors ils vont sortir. »«
D'accord. »
Il se leva, épousseta son jean, enfonça un peu l'arme de son père dans sa poche revolver et suivit Cordy le long de la voie ferrée en direction du bourg.